Dieu pour ce premier temps de louange, d'adoration et de commémoration également. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, le titre que j'ai donné à la prédication, c'est la victoire du Seigneur Jésus sur les forces démoniaques. Et puisque c'était d'actualité, c'était donc avant-hier, il y avait donc Halloween. Je posais la question de la position du chrétien par rapport à cette fête, puisque donc chaque année à cette période, donc le 31 octobre, je pense que vous avez entendu des enfants sonner ou toquer à votre porte pour avoir des bonbons, des enfants déguisés en sorcières, en vampires, en zombies, en squelettes. Et la question, c'est parmi les évangéliques, la question qui est posée, c'est de la participation du chrétien à ce genre de manifestation. Alors, peut-on fêter Halloween? Et pourquoi on peut fêter, par exemple, la fête des pères, la fête des mères, des grands-mères, et pas Halloween? On pense à la naissance de Jésus, à Pâques, à la Pentecôte, etc., et pas Halloween. Donc chacun a son avis sur la question. Hein. Et certains pensent que le chrétien ne devrait pas participer à cette fête en déguisant son enfant, en le laissant faire le tour du quartier comme font les autres. D'autres pensent qu'il n'y a pas de mal à donner quelques bonbons aux enfants. Il n'y a rien de mal à cela. Et se déguiser ce jour-là, c'est amusant. Et parce que d'autres fêtent carnaval et ils se déguisent et ça ne dérange pas. Et pour d'autres encore, ils disent que c'est une occasion de pouvoir témoigner de sa foi. Alors, il y a toujours plusieurs motivations qui peuvent être soulignées. Alors, dans un premier temps, je fais un petit rappel par rapport à l'origine de cette fête d'Halloween. Chacun pouvait trouver sur Internet pas mal de choses là-dessus. Et j'ai lu l'article d'un auteur donc, qui disait que la fête d'Halloween vient donc d'une fête celtique, donc d'origine irlandaise, et qui date même de 300 ans, plus de 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis donc, les chefs religieux donc celtes, qui redoutaient donc la fin de l'été, croyaient que chaque année, durant donc la nuit du 31 octobre, les esprits des morts venaient hanter le monde des vivants. Et puis, pour les apaiser ces esprits, ils pratiquaient le sacrifice d'enfants. Et ces prêtres se déplaçaient donc de maison en maison, réclamant des offrandes pour les esprits et exigeaient des sacrifices. Ils proféraient des malédictions de mort sur les maisons qui refusaient de participer. Et pendant cette fête, les personnes pouvaient invoquer les démons et le diable pour se défendre contre les dieux et les esprits des morts. Et les habitants se déguisaient en animaux horribles pour effrayer les esprits. Et on lit aussi que pour éclairer leur chemin, ces prêtres portaient des navets qu'on a remplacés par des citrouilles, qui sont évidés et découpés en forme de visage, où brûlait une bougie faite avec la graisse humaine de sacrifices précédents, et tout ça dans le but d'effrayer les esprits des morts. Et donc c'est au IVe siècle, c'est l'empereur Constantin qui a autorisé que les territoires païens qui ont donc conservé ces rites de le faire, mais juste avant la fête catholique de la Toussaint, puisque c'est aussi d'où ce nom Halloween, qui veut dire la veille de tous les âmes ou la veille de tous les saints, donc le 31 octobre. Voilà, donc c'est là l'origine de cette fête, donc qu'on fête Halloween. Le sens de cette fête aujourd'hui, c'est déjà Halloween, comme vous le voyez, c'est avant tout une fête commerciale qui est arrivée donc aux États-Unis au début du XXe siècle, donc lorsque il y a eu cette immigration des Irlandais aux États-Unis. Et c'est arrivé en France à la fin du XXe siècle, hein, ça ne fait pas longtemps, en 1990 par là. C'est une fête qui génère énormément d'argent, plusieurs milliards de dollars. Et c'est une période très lucrative pour les voyants, les astrologues, les éditeurs de livres d'astrologie, de sorcellerie. Et donc c'est une période très importante pour tous ces gens-là. Halloween, c'est une fête qui montre la réalité du monde des esprits. Les personnes qui pratiquaient cette fête, comme je l'ai dit, croyaient que les esprits des morts pouvaient venir hanter le monde des vivants. Ces personnes pensaient et croyaient que les esprits pouvaient être apaisés si on leur offrait des offrandes et si l'on sacrifiait les enfants. Les personnes pouvaient se protéger des mauvais esprits en invoquant le diable et ses démons. Et ces personnes pensaient qu'elles pouvaient donc effrayer les morts avec un déguisement horrible, etc. En tout cas, c'est une fête qui met en lumière cette réalité de l'existence du monde des esprits. Et la Bible parle de cette réalité. Puisque, et c'est le texte que nous allons lire aujourd'hui, dans Luc chapitre 8, versets 26 à 39, où juste avant il est parlé de Jésus qui a montré sa puissance en apaisant la tempête, et donc il va arriver de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Gadaréniens ou Géraséniens. Et là, il va montrer sa toute-puissance pour transformer la vie d'un homme qui était sous l'influence de plusieurs esprits impurs. Et ce texte nous montre que, oui, les esprits impurs existent, mais ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas amusant. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Alors j'aimerais vous inviter à la lecture, Luc chapitre 8, à partir du verset 26. Il est dit qu'ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, et qui est vis-à-vis de la Galilée. Et lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Et tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons qui lui demandaient la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Voilà. Ce texte nous montre justement cette réalité d'un homme qui était sous l'influence de plusieurs démons, un ou plusieurs esprits impurs peuvent agir dans le monde, c'est ce qu'on voit, dans le monde des vivants, et même entrer dans une personne pour lui faire du mal. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et faire croire aux enfants que c'est amusant, c'est les tromper. La réalité donc, des esprits impurs, c'est l'esprit impur ou le démon, c'est un ange déchu. Dieu, il a créé les hommes, il a créé les êtres angéliques, bons au départ. Et la Bible nous raconte que parmi les anges, il y en a un, Satan, qui s'est rebellé contre Dieu et qu'il a voulu être comme Dieu. Et il a été précipité et il a entraîné avec lui pas mal d'anges qui sont appelés justement les anges déchus. Alors, certains de ces anges sont enchaînés, et la Bible dit, alors, soit temporairement ou définitivement, et d'autres sont libres et sont actifs. Et l'apôtre Paul dit même que les chrétiens, il faut faire attention parce que les chrétiens sont même amenés à lutter contre les esprits mauvais, il dit, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc il dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il y a une activité spirituelle et il y a donc une réalité. Lorsqu'on parcourt la parole, on voit que les esprits impurs peuvent infliger des maladies physiques ou mentales ou causer la mort des hommes. Alors, il y a plusieurs exemples. Dans Matthieu 9, il est parlé d'un démoniaque qui était muet, d'un démoniaque aveugle et muet dans Matthieu chapitre 12. Au chapitre 17, Matthieu nous parle d'un fils lunatique qui souffre cruellement et que l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Il y a quelques exemples comme ça, mais toutes les maladies ne sont pas liées forcément à une activité démoniaque. Dans Matthieu chapitre 4, par exemple, il est dit qu'on a mené à Jésus tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, mais aussi des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc il y a bien une distinction qui est faite entre les démoniaques et d'autres personnes qui souffraient de toutes sortes de maladies. Donc il ne faut pas mettre sur le dos des démons tout ce qui nous arrive. Quoi qu'il en soit, la fin de ces êtres, c'est l'enfer, c'est cet étang de feu qui les dit dans l'Apocalypse chapitre 20. Et dans Matthieu 25, le Seigneur dit que aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc ces anges, les anges qui ont suivi le diable et qui sont donc ces anges déchus. Donc leur fin, ça sera ce feu éternel. Non seulement le diable et ses anges, mais aussi tous ceux qui n'auront pas aimé son avènement, tous ceux qui auront fait le choix de ne pas se soumettre à Dieu, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, et donc ils seront aussi jetés dans les temps de feu. Et ça, c'est la réalité. Alors, ce texte nous parle donc de ce démoniaque dans ces versets 26 à 29, qui est donc sous l'emprise de un ou de plusieurs démons. Ils sont plusieurs, il est dit. Et cet homme, il dit qu'il habitait dans les sépulcres. Il demeurait là où se trouvaient les morts. Je regardais un reportage où montrait des personnes en Asie qui vivaient dans les cimetières. C'était là leur maison. Ou en Afrique, malheureusement, des enfants qui étaient là, qui vivaient dans les cimetières, et puis ils étaient exploités. Ça, c'était au Libéria, mais dans tellement de pays, ça se passe comme ça aussi. Ils vivent dans les sépulcres. Alors que le texte dit, il ne vit pas dans les maisons comme tout le monde. Il ne portait pas de vêtements. Il avait une force surnaturelle qui lui venait donc des esprits qui étaient en lui. Au point même que les gens ne pouvaient pas le dompter, il dit. Et à chaque fois qu'on arrivait à lui mettre des fers aux pieds, sous la puissance des démons, il arrivait à se libérer. Donc il avait une force colossale. Il était entraîné donc par le démon dans les déserts, il est dit au verset 29. Et le même texte dont il est fait mention de ça dans Marc chapitre 5, il est dit que nuit et jour, il se faisait du mal en se meurtrissant avec des pierres. Il faisait de l'automutilation et n'arrivant pas à se libérer de son mal, il se mortifiait. Donc voilà ce que, à cause de l'esprit impur qui est en lui, voilà quelle était la condition de cet homme qui était complètement désœuvré, il était sans abri et il vivait avec dans les cimetières. Halloween, donc c'est une fête qui montre non seulement la réalité du monde des esprits, mais c'est une fête qui honore ce qui est mal et ténébreux. Donc dans les écoles, on parle de la gentille sorcière. On veut faire croire aux enfants que ce qui fait peur, sombre et ténébreux, que c'est bien, qu'il n'y a aucun mal à cela. Mais c'est faux. Je me rappelle combien de fois j'ai dû interdire à nos enfants de lire certains livres que les maîtresses proposaient parce qu'il était toujours question de sorcières. Et c'était toujours embêté, mais je le dis, mais avec la quantité de livres qui existent, pourquoi vous proposez des livres dont il est question de sorcières? Voilà. Et même, vous voyez, pour attirer les clients, les commerçants ont tout intérêt à décorer leurs vitrines, d'après ceux qui disent. Ça donne un côté beaucoup plus sympa, et plus amusant, et donc ça attire beaucoup plus de monde. Donc on voit que la société cherche à rendre cool ce qui est horrible. Mais le prophète Ésaïe nous a mis en garde par rapport à cela, dans Ésaïe chapitre 5, quand il dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Malheur à ces gens-là. L'apôtre Paul dit, attention, hein, dans le contexte, il parle des faux apôtres, mais au fait qu'ils sont tout simplement des instruments du diable, ces gens qui s'intègrent dans l'Église. Il dit que même Satan, il se déguise en ange de lumière. Donc il ne faut pas être étonné que ses serviteurs aussi se déguisent en ange de lumière. Halloween est une fête qui favorise les pratiques occultes et elle minimise les dangers de la sorcellerie la pratique de l'astrologie, le spiritisme, la voyance et les histoires d'Harry Potter qui initient les enfants aux activités de médium, de sorcellerie, de recherche de contact avec les morts. Et toutes ces choses, vous savez, là, Dieu interdit formellement de telles pratiques. Et ça, on peut lire dans Deutéronome chapitre 18. Et avant d'entrer dans le pays promis, Dieu a averti son peuple. Il dit, voilà, tout ce qui se fait dans ces pays-là, et c'est pour cela que je vais les juger. Et le peuple d'Israël a été un instrument pour juger ces peuples-là. Et il dit, vous n'allez pas pratiquer ça. Alors, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 9, alors il dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc pour soi-disant protéger les gens contre les esprits des morts qui pourraient venir hanter les vivants, ils encourageaient donc les gens à se faire protéger par les esprits. Mais en fait, la Bible dit que lorsqu'on meurt, c'est fini. Après quoi vient le jugement? Dans Hébreux 9, il dit cela, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc penser que c'est on peut être en communication avec un mort, on peut entendre la voix de son mari, on peut entendre la voix de sa femme, on peut entendre la voix de grand-père, etc. C'est pas vrai. C'est l'esprit qui fait croire que c'est. On est en relation avec des démons. Et Satan veut faire croire que c'est, oui, c'est l'enfant qu'on a perdu, c'est le mari qu'on a perdu, etc., etc. La Bible nous dit que nous ne devons pas être en communion avec les démons. 1 Corinthiens chapitre 10, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, si on a quelques relations avec soi-disant les morts, on est en communion avec les démons. Et on ne peut pas se dire chrétien si on a des relations avec les morts. Donc il faut faire très très attention par rapport à cela. Seul le Seigneur Jésus peut libérer de l'emprise des démons, et c'est ce que ce texte de Luc chapitre 8 nous montre. On voit donc l'attitude du démoniaque vis-à-vis de Jésus dans les versets 28 à 32. Je vais relire le texte. Il dit que, verset 28, « Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Après, il est dit que Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» Légion lui répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas le ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, donc, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Donc là, on voit que l'homme est comme une marionnette sous l'influence de l'esprit impur. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, il s'adresse à ce démon. Et dans le verset 28, il dit, il poussa un grand cri et il se jette aux pieds de Jésus. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? L'esprit impur, donc, se prosterne devant le Seigneur, parce qu'il sait que Jésus est le Fils du Dieu Très-Haut. Il sait qui est Jésus. Les démons savent qui est Jésus. Et ils savent aussi quelle est leur destinée. Ne me tourmente pas avant l'heure. Ne permets pas, n'ordonne pas que j'aille dans l'abîme, parce qu'ils savent que c'est là leur destinée. Le démon vient s'humilier devant Jésus-Christ, il vient à ses pieds. Et il lui demande de ne pas le tourmenter. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, dans les versets 29 à 32, il manifeste là toute son autorité sur les forces démoniaques, en ordonnant à l'esprit impur de sortir de cet homme, voilà, et en ordonnant à l'esprit impur de se dévoiler et de dire qui il est. Quel est ton nom, il dit. Et puis, en répondant à la demande de l'esprit impur, qui lui dit donc de ne pas le permettre d'aller dans l'abîme, et donc Jésus va le permettre d'aller dans ses pourceaux. Le Seigneur va opérer donc une transformation dans la vie de cet homme, de ce démoniaque, dans les versets 33 à 37. Alors, il dit que les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Et donc, après, cet homme va retrouver son bon sens. Après donc cette délivrance, c'est un homme qui est trouvé par ceux qui gardaient les pourceaux et par les gens du village. Ils étaient étonnés de voir cet homme-là paisible. Certainement, on a dû lui mettre des vêtements pour cacher sa nudité. Cet homme est assis au pied de Jésus, au calme, alors que sans cesse, nuit et jour, il se meurtrissait. Là, il a trouvé la paix. Il est vêtu, il est dit. Donc là, il retrouve son estime de soi. Il n'est plus un homme méprisable. Il ne vit plus comme un animal. Il retrouve là, grâce à Jésus, toute sa dignité. Et il est aussi dans son bon sens. Ce n'est plus un fou, ce n'est plus quelqu'un qui fait peur, mais il est maître de lui-même. Il n'est plus sous l'influence d'un autre, il n'est plus sous l'influence de ses démons. Donc là, la transformation opérée par le Seigneur Jésus dans la vie de cet homme est visible par les autres. Les autres voient le changement dans la vie de cet homme. Et donc, les compatriotes, ou en tout cas les gens qui étaient là, ils étaient effrayés parce qu'ils disent, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Comment cet homme a pu se faire? Qui est Jésus pour qu'il arrive à faire cela? Dans les versets 38 à 39, on voit que l'homme de qui étaient sortis les démons demandait à Jésus la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc là, il veut rester avec Jésus. Il veut rester avec celui qui l'a délivré de ses démons. Il veut rester avec son Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. Et c'est ce qu'il va faire, il va obéir. C'est déjà là les deux signes d'une personne qui fait une rencontre personnelle avec Jésus, c'est de rester attaché à Jésus-Christ, rester auprès de Jésus et obéir à Jésus. Et donc, cet homme, sa vie est transformée grâce au Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout cela pour nous dire que on voit la nécessité de reconnaître son état devant Dieu. Tous les hommes n'ont pas en eux des esprits impurs, mais tous peuvent être sous leur influence. L'homme qui n'a pas Christ dans sa vie peut être sous l'influence du diable et peut être influencé par le diable. Et vous pouvez même lire avec moi ce texte pour dire que même s'il n'y a pas de présence dans Éphésiens chapitre 2, même s'il n'y a pas de présence d'esprit mauvais, on peut, sans Christ, être sous l'influence du diable. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc vous voyez que dans les premiers versets, il parle des personnes qui marchent, qui vivent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il parle du diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, on est une proie facile pour le diable et on peut se laisser conduire par lui. Et lorsqu'on se donne à Jésus-Christ, le Seigneur nous garde et nous protège de cela et il nous demande d'être remplis de son esprit pour justement ne pas être sous l'influence du malin. Et si on ne se laisse pas conduire, si on ne se laisse pas diriger par l'Esprit de Dieu, alors il peut y avoir une influence. Lorsque le Seigneur Jésus il a repris Pierre, il a dit « Arrière de moi, Satan !» Et lorsqu'on se laisse, on marche selon la chair et non selon l'Esprit, alors on ne peut être sous cette influence-là. L'autre chose, c'est donc il faut reconnaître déjà son état devant Dieu et le risque qu'il y a qu'on soit influencé par le diable et qu'on a besoin d'être délivré. L'autre chose, c'est la nécessité de passer du royaume des ténèbres à celle du Christ. Parce que quand on n'est pas enfant de Dieu, on est dans le royaume des ténèbres, la Bible dit. Et lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Colossiens que Dieu nous arrache de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. On est dans l'un ou dans l'autre. Il n'y a pas de position intermédiaire. Et donc, comme cet homme, l'homme a besoin, et ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ ont eu à faire cela, reconnaître leur état pécheur, reconnaître qu'ils font le mal, et qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, et ils se sont humiliés, venus au pied du Seigneur Jésus, et l'ont accepté dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Et ils ont été délivrés. Et c'est ce que Dieu demande à tous. Reconnaître son état devant Dieu. Et il est nécessaire aussi d'être protégé, donc par l'Esprit de Dieu, par rapport à cela, parce que la victoire du Seigneur Jésus sur le diable et des esprits impurs est totale. En croyant en Jésus, il nous donne donc son Esprit qui vient habiter en nous. Le Seigneur Jésus explique ça dans un passage, il dit que lorsque les démons sont sortis d'une maison, si la maison reste vide, le démon il va revenir, mais avec d'autres. Et ils vont venir remplir cette maison et la condition de cet homme sera encore pire. Et donc, il faut remplacer, voilà, dans cette maison, ce cœur ne doit pas rester vide. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le remplisse. Alors, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit du malin? Et donc, lorsqu'on se donne à Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit de Dieu, mais le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul, « Soyez remplis de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Soyez remplis de l'Esprit et vous n'allez pas vous laisser influencer par le diable. Vous allez agir comme des enfants de Dieu et vous allez faire ce qui honore Dieu. Mais si vous dites que vous êtes chrétien et que vous vivez comme les gens du monde, il ne faut pas être étonné que vous parlez comme les gens du monde. Vous pouvez faire n'importe quoi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Donc, je notais que la présence du Saint-Esprit en nous est notre sécurité contre toute attaque, toute influence des esprits impurs. À nous de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour ne pas être influencés par le diable. Mais le fait d'avoir l'Esprit de Dieu nous garde, nous protège de cela. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que puisque nous ne faisons plus partie de ce monde, on doit prendre position justement par rapport à toutes ces fêtes qui mettent en l'honneur ces choses, des esprits mauvais, et ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais de proclamer la vie en Jésus-Christ. Et donc, par rapport à de telles fêtes, le chrétien doit s'approprier la victoire de Christ sur la mort. Si cette fête célèbre la mort, nous devons nous approprier la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Le Seigneur Jésus l'a dit à Marthe, « Voilà, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il dit, « Crois-tu cela ?» Et elle lui dit, « Oui, Seigneur. » Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et l'apôtre Paul rappelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 14, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Donc nous n'avons pas à être affligés, nous n'avons pas à avoir peur. On doit juste laisser les morts là où ils sont. Mais viendra le temps où le Seigneur redonnera vie au corps et nous allons retrouver ceux qui nous ont précédés. L'autre chose, c'est que on doit vivre comme un enfant de lumière. En tant qu'enfant de Dieu, non seulement on doit s'approprier la victoire de Christ sur la mort, mais on doit vivre comme les enfants de lumière. Et j'aimerais que nous lisions ensemble ces passages de 2 Corinthiens chapitre 6. Versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que nous servons, c'est le même que nous adorons. Et dans Éphésiens, et donc si lui, il a dit au peuple, voilà, mais pour vous, je ne le permets pas que vous puissiez faire comme les gens du monde, comme ces païens, alors dans le Nouveau Testament, il dit la même chose. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le chrétien doit vivre comme un enfant de lumière. Il doit chercher à discerner la volonté de Dieu et faire ce qui est bon, agréable et parfait, comme il est dit dans ce texte de Romains chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, en tant que chrétien, je dois me poser la question, « Seigneur, quelle est ta volonté ? Est-ce que tu es honoré si je pratique telle ou telle chose ?» Et Pierre aussi rappelle cela, il dit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Voilà, frères et sœurs, seul Jésus peut apporter la paix comme il l'a fait pour ce démoniaque. Alors, est-ce que ici, il y a une personne qui n'a pas encore trouvé la paix avec Dieu? Alors, vous avez entendu, oui, c'est Jésus qui peut vous apporter la paix. Il peut vous délivrer de vos péchés. Il peut vous délivrer de tout esprit mauvais qui pourrait être en vous aussi. Et si vous voulez être libre, alors c'est vers Jésus-Christ qu'il faut se tourner. C'est au pied de Jésus que vous devez vous mettre. Et pour nous, les chrétiens, nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, ne pas oublier que la présence du Saint-Esprit en nous est notre sécurité et contre toute attaque de l'ennemi. Et nous devons tout faire pour être remplis de l'Esprit, pour que le mal n'ait aucune influence sur nous. Nous devons donc veiller à cela, à nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas donner d'occasion à l'ennemi et pour qu'il ne nous influence pas. L'autre chose, c'est comme cet homme qui a été délivré, Jésus nous confie la même mission. Il dit, allez dans ta maison, va dans ta famille et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Parce que c'est là la mission que le Seigneur nous donne à toutes et à tous. Allez dans notre maison, vers nos proches pour leur dire, pour leur raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. et leur dire que le Seigneur Jésus a eu pitié de nous et qu'il peut aussi avoir pitié d'eux. Et comme lui, soyons obéissants et rendons témoignage de la puissance de Jésus dans nos vies. Et c'est ce que cet homme a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc à nous de rendre témoignage du pardon et de la délivrance que le Seigneur a opérée. En attendant tout cela, c'est à chacun de s'examiner devant le Seigneur, d'agir en conscience. Et je vais terminer avec ce texte de 1 Corinthiens chapitre 8. Puisque c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, l'apôtre Paul le dit. Mais il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 8, je vais lire ces versets, à partir du verset 1. Alors, il parle des exemples de viande sacrifiée aux idoles, mais on peut remplacer ça par le Halloween, par diverses choses où on se pose la question est-ce bien, est-ce pas bien, etc. Et là, dans le contexte, il y avait des pratiques où les gens sacrifiaient des choses aux idoles et se posaient la question, est-ce qu'on peut manger la viande ou pas? Et donc il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons nous n'avons rien de plus, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Voilà, que chacun examine son cœur, voit sa motivation et puis surtout faire attention de ne pas être une pierre d'achoppement pour son frère, pour celui pour qui Christ est mort. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide dans tout cela et que son nom soit glorifié. Amen.